Violette Ferreira.
Bonsoir, certaines maisons s'illuminent avec la tombée de la nuit, c'est à l'occasion des fenêtres de l'Avent. À Evillard, l'événement célèbre ses 10 ans. Anne Bernasconi est organisatrice, elle y participe depuis le début et nous livre les secrets de longévité de cette fête.
Le secret de la longévité, c'est le secret d'avoir envie de vivre ensemble, de créer quelque chose, de se retrouver, d'être en lien avec les autres, de faire connaissance, d'entretenir des amitiés, d'entretenir l'amour de ces instants qu'on vit ensemble. C'est le partage.
Vous ouvrez votre porte à des inconnus, à des personnes que vous ne connaissez peut-être pas. Est-ce que ça ne fait pas un peu peur ?
Pas du tout, parce que on n'a jamais été attaqué. C'est déjà ouvrir plutôt le devant de sa maison. On est dans un espace vraiment à la charnière entre dedans et dehors, entre public et privé. Ça a son charme. Souvent, c'est plutôt quand même des gens du village qui viennent. C'est une sorte de petite fête et chaque personne qui ouvre, chaque famille donne sa connotation.
Et la famille Bernasconi-Minger ouvrira sa fenêtre mercredi 4 décembre à Evillard pour un apéritif des 18h. Ailleurs dans la région, d'autres fenêtres de l'Avent sont organisées. C'est le cas par exemple à Valbirs ou Renan. Un peu de répit pour Télébilingue avant le verdict de la justice. Le département fédéral de la communication a prolongé la concession de la télévision biennoise qui aurait dû s'éteindre à la fin de l'année. Elle bénéficie d'un sursis au moins jusqu'au 1er janvier 2026, jusqu'à ce que le tribunal administratif fédéral rende sa décision, selon le journal Le Temps. Le DTEC avait provoqué la surprise en début d'année en préférant un projet de la chaîne neuchâteloise Canal Alpha à la télé du groupe Gassman pour la concession de la zone de Bienne. Fréquentation en hausse pour le marché paysan de Moutier. L'événement s'est déroulé hier toute la journée. S'il est compliqué de donner des chiffres précis, étant donné que l'entrée est libre, les organisateurs estiment toutefois que les visiteurs étaient au rendez-vous. Stéphane Girardin, caissier de l'événement.
Je pense qu'elle s'est très bien passée pour tout le monde. Nous, les organisateurs, on a été très contents. En termes de fréquentation, on peut dire que c'était supérieur à l'année passée. On a fait le tour également des exposants. Tous les exposants qui nous ont répondu étaient très satisfaits. Certains ont très bien vendu d'après les retours. Personne ne nous a déjà annoncé qu'ils ne reviendraient plus l'année prochaine, en tout cas.
Selon vous, quel est le passage de votre programme, on va dire traditionnel, qui attire le plus les personnes ?
Je pense, à mon avis, que ça doit être justement le mélange de tout. Il y a les sonneurs de cloches, les yodeleurs, il y a beaucoup d'intermèdes musicaux, également folkloriques. Et ça, je pense que c'est un ensemble qui fait que c'est apprécié des gens. Et ça peut être aussi également un facteur pour un peu changer les idées, avoir une ambiance différente ici à Moutier.
Le comité ne s'est encore pas réuni pour parler de l'avenir du marché paysan. Stéphane Girardin estime toutefois qu'au vu des sourires, une 28e édition est envisagée. Un nouvel ouvrage s'intéresse à l'horlogerie dans l'arc jurassien, intitulé « Parcours horloger de la famille Gaignebin au siècle des Lumières ». Paru aux éditions Alphil, il était présenté hier à la couronne à Sonsbeau. Selon l'auteur Rosella Baldi, historienne de l'art rattachée à l'université de Neuchâtel, ce livre n'est pas un énième sur l'horlogerie, il apporte bel et bien quelque chose de nouveau au lecteur.
Il en existe de nombreux, mais justement, celui-ci, il s'intéresse à ces figures Gaignebin pour montrer qu'il y a toutes sortes de documents nouveaux qu'on peut exploiter pour mieux comprendre le contexte horloger. Et aussi, justement, il s'intéresse à l'horlogerie pour montrer qu'il y a quelques idées reçues qu'on a sur cette histoire horlogère. Et un tout petit peu, je dirais, pas pour les remettre en question, mais pour apporter un peu d'ouverture à cette histoire horlogère qu'on a un peu tendance à répéter de la même manière, en tout cas pour le XVIIIe siècle, ce que l'ouvrage propose, c'est une autre lecture de ce siècle, de cette histoire horlogère, en la montrant très riche en mobilité, en savoir-faire, en idées, etc. Donc voilà, on espère que cela contribuera un peu à revoir, si vous voulez, la manière dont on a jusqu'à présent compris l'histoire horlogère du XVIIIe siècle.
Et le petit format de ce livre et la présence de nombreuses illustrations le rendent accessible à de nombreux lecteurs, estime encore l'auteur Rosella Baldi. Perturbation de route pour vous rendre à Saint-Imier. Dès demain, l'accès depuis Mont-Soleil vers la cité imérienne sera interrompu. Des travaux de réparation et renforcement seront menés entre les Éloyes et la Combe à la Biche. Le hameau de Mont-Soleil et la centrale solaire seront accessibles depuis Saint-Imier ou depuis la Crèmerie. La perturbation débute demain dès 7h30 et se termine mardi à 19h au plus tard. Les conditions météorologiques peuvent repousser repoussé d'un jour l'ouverture de la route. On part dans les airs à présent. Saviez-vous que l'on peut tirer des parallèles entre le monde médical et l'aéronautique ? Jeudi, une trentaine de médecins et de personnels soignants du réseau de l'Arc participaient à une formation continue proposée par la société jurassienne Formacim à Delémont. Un haut programme, des simulations médicales et une séance sur le simulateur d'air FlySim. Les praticiens de la région ont pris place dans les sièges de pilote et copilote d'un Airbus A320 pour tenter un atterrissage reportage.
Vous serez projeté en l'air, ouais, en face d'une piste.
Okay.
La piste 14 à Zurich, votre objectif c'est de poser l'avion.
Ok, très bien.
Vous sentez très allé, Christopher.
Ah, complètement. Pas du tout.
Serge, vous gérez l'avion. Hein.
Alors moi, je gère, ouais. J'ai toujours rêvé de faire pilote. Bientôt médecin et pilote, alors du coup, là, c'est bon. J'ai mon rêve. Médecin pilote. On va se cacher. Ça va être trop beau.
Docteur Alain Kenfack.
Vous êtes l'instigateur de cette journée de simulation. Qu'est-ce que vous cherchez via cet après-midi ici dans ces simulations ?
C'est de travailler d'une autre façon, en équipe, avec nos équipes, autour de projets communs. Et je crois que c'était un peu la promesse de cet atelier et des activités qu'on a choisies, c'est de pouvoir aborder dans un cadre différent, dans un cadre ludique, des situations complexes qui ressemblent à celles qu'on vit en médecine, au lit du patient ou dans un hôpital. Et donc ça permet de différemment travailler sur des situations pour nous préparer à ces situations dans la vraie vie.
Moi j'aimerais que tu me donnes chaque 30 secondes l'information suivante, la vitesse. Tu as des volets et le temps d'atterrissage. Où est-ce qu'on en est ? Tous les 30 secondes, plus ou moins. Je vais te rappeler quand je peux, mais la notion de temps, elle est toujours assez relative.
Donc, je vais baisser la vitesse à 180.
Très bien.
Serge et Christopher, vous venez de finir. Est-ce que vous arrivez à tirer des parallèles entre ce que vous avez vécu dans ce poste de pilotage que ce que vous pouvez vivre dans vos métiers de médecin soignant ?
Alors, je pense qu'on fait toutes ces erreurs, initialement, de procédure, des erreurs individuelles, et puis là, du coup, c'est de les corriger. Et c'était un peu le cas, je pense, la première fois on avait fait des erreurs, j'en ai fait personnellement, et du coup mon expérience a servi pour que le prochain ne fasse pas l'erreur, donc plutôt pas mal.
Je rajouterais juste une autre chose, c'est aussi la communication, qui est aussi extrêmement importante, on communiquait quand même beaucoup, je savais exactement à chaque moment où on en était, par rapport à la vitesse, par rapport au volet, par rapport à la situation, on va dire, en dehors du vol. Serge, il savait aussi la même chose. La communication, je pense que c'était la clé en fait de bien réussir à atterrir.
Un reportage réalisé par Nancy Chapuis. Des lémuriens et tortues en danger d'extinction seront de retour sur leur île d'origine, Madagascar. Ils avaient été victimes d'un trafic et saisis en Thaïlande. Le ministre malgache de l'Environnement annonce qu'ils seront rapatriés ces prochains jours. Au total, plus de 900 tortues et au moins 30 lémuriens sont concernés. Échec des négociations pour parvenir à un traité mondial contre la pollution plastique. Des négociations se tenaient à Busan, en Corée du Sud, depuis une semaine, entre plus de 170 pays. Elles visaient à trouver une solution pour réduire cette pollution qui envahit les océans, les sols et s'infiltre à l'intérieur du corps humain. Aujourd'hui, elles échouent face à l'opposition d'un groupe de pays pétroliers menés par la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Les négociations devront reprendre en 2025.
Sport.
18h et bientôt 9 minutes sur RJB, place au sport avec une nouvelle chance de podium suisse à Killington après la troisième place de Camille Rast hier lors du géant dans la station du Vermont. La skieuse valaisanne pourrait bien en remettre une couche aujourd'hui lors de la première manche du slalom de Coupe du Monde qui s'est tenue cet après-midi. Camille Rast a terminé troisième juste devant Mélanie Meillard. Les précisions de Stéphanie Wenker.
Quel week-end pour Camille Rast. La Valaisanne pourrait bien signer un deuxième podium à Killington, une semaine seulement après être montée sur la boîte pour la première fois de sa carrière. La skieuse valaisanne est placée à seulement 12 centièmes de l'Allemande Lena Dürr et un petit centième la sépare de la deuxième place de la Suédoise Anna Svärn Larsson. Camille Rast est également talonnée par une autre valaisanne, Mélanie Meillard. La Neuchâteloise Deirdre Mans enregistre 30 centièmes de retard sur le podium. Les Suissesses profitent donc également de l'absence de Michaela Schifrin, blessée la veille en géant, et de celle de Petra Vlova, pas encore remise de sa blessure de l'an dernier. La deuxième manche se tient à 19h heure suisse et elle promet son lot de surprises.
Et puis les autres Suisses se sont classées plus loin. Wendy Holdener est 9e. Michel Gisin se trouve à la 24e place provisoire, juste devant Aline Hopling et Eliane, pardon, Kristen, qui est 37e. Nicole Good et Aline Dagnotte ont été éliminées. Large succès du FC Bessa Bienne pour terminer l'année. L'équipe albano-biennoise de football a remporté aujourd'hui son dernier match de Première Ligue avant la trêve. Bessa a gagné 4-1 contre Roy Kreutz à la Tissot Arena. Ce succès permet aux Célandais de grimper à la 10e place, de compter 4 points d'avance sur la barre et de mettre fin à une série de 5 défaites consécutives. Autre succès du jour, il concerne Sion en Super Ligue de football. L'équipe s'est imposée 3-1 à Winterthur et compte désormais 9 points d'avance sur la lanterne rouge grâce aux Peurs. Et puis, deux autres matchs sont en cours. Young Boys fait la course en tête 2-1 contre Saint-Gall et revient provisoirement à 1 point du top 6. Alors que dans les autres duels du haut de tableau, on a Genève Servette qui est 4e et qui rencontre Lugano 2e. Le score est actuellement de 1-0 pour les Genevois. Et on fait le point à présent sur la météo avant de se quitter. Des passages nuageux sont attendus ce soir et cette nuit. Quelques gouttes pourront tomber par endroits selon Météo News. Demain, le temps est annoncé partiellement ensoleillé en matinée. La couverture nuageuse va augmenter dans l'après-midi et des dégradations pluvieuses sont attendues demain soir. Mais demain, le mercure sera compris entre 3 et 5 degrés pour les minimales, puis il pourra grimper jusqu'à 5 et 11 degrés en toute région. Merci de nous avoir suivis et bonne fin de journée à vous.